attention en prenant soin de son cerveau, mais aussi en entraînant et en stimulant sa mémoire. Il existe pour cela des activités et des stratégies à proposer aux personnes âgées qui n'ont pas forcément de problème. Et pour en parler, le professeur Anne-Marie Hergis, professeur de neuropsychologie du vieillissement à l'université Paris-Cité, qui travaille depuis une vingtaine d'années sur la mémoire et depuis beaucoup plus longtemps sur le vieillissement. Anne-Marie Hergis, qui vient depuis 22 ans en Guyane pour animer des ateliers.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, j'entends pas que vous m'entendez.
Alors voilà, je vais sortir le micro, ça sera mieux. Comme ça, vous m'entendez bien? Ok. Comment?
Oui, ah, bah, si, quand même. C'est quand même beaucoup mieux là. Bon, vous m'entendez bien là? D'accord. Ok, donc tout d'abord, je... Pour ceux qui me connaissent savent que c'est toujours avec grand plaisir que je viens en Guyane, plus spécifiquement pour la deuxième édition des entretiens Alzheimer, organisée par la Fondation Recherche Alzheimer. Ceux qui ne me connaissaient pas maintenant le savent. Et je tenais à remercier Madame la sénatrice qui nous a fait l'honneur de venir faire le discours d'introduction à ces entretiens et que j'ai eu le plaisir de connaître maintenant il y a 22 ans quand je suis venue la première fois. Et qui venait de créer donc l'association ASGUAL, association Guyane Alzheimer. Donc nous étions rencontrés dans ce contexte. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler. La dernière fois on avait plutôt parlé de la maladie d'Alzheimer et quels étaient les troubles cognitifs et les interventions non médicamenteuses. Donc là je vais parler un petit peu plus en amont. Donc de ce qu'on peut faire pour prévenir. Alors le professeur Nasri a déjà bien ouvert la voie hein, sur ce sujet. Alors donc une question, pourquoi certaines personnes gardent longtemps de bonnes capacités cognitives? Donc on va parler du concept de réserve. Alors ce concept de réserve a commencé à voir le jour vers les années 80. Des chercheurs ont examiné le cerveau donc, de personnes âgées, donc je ne vais pas reciter l'étude des nonnes, parce que hein, ça a été évoqué, et ils ont vu que certaines personnes avaient donc les anomalies caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les plaques amyloïdes et les protéines tau, les dégénérescences neurofibrillaires, et donc n'avaient pas présenté de leur vivant hein, de troubles cognitifs importants. Alors l'hypothèse à l'époque, hein, c'était parce que la taille de leur cerveau était plus élevée que la moyenne. Donc ça, c'était vraiment les premières hypothèses. Depuis, il y a eu énormément de travaux, d'études, et contrôlés en grand nombre, qui ont contribué au développement du concept de réserve. Alors la réserve, qu'est-ce que la réserve? La réserve, il y a la réserve cognitive et la réserve cérébrale. Alors, je ne sais pas si... Ouais, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez baisser un petit peu la lumière? Parce que si on ne voit pas mon visage, ce n'est pas grave. Mais si on voit l'écran, c'est, ça sera mieux. Alors, je ne sais pas. Alors, donc, la notion de réserve, hein, ce sont des ressources qui permettent au cerveau de résister plus longtemps aux effets de l'âge et de la maladie. Donc, on a la réserve... cérébrale, hein, qui est la quantité de cerveau qui reste indemne de lésions, donc le nombre de neurones, de connexions, de volume cérébral, la circulation sanguine, et la réserve cognitive, donc c'est plus qualitatif, hein, c'est le fonctionnement du cerveau qui est capable d'optimiser ses ressources en recrutant d'autres régions cérébrales. Et donc, ça va être plutôt la qualité des synapses, la vitesse de transmission, etc. Et donc, ce qui explique hein, que certaines personnes, malgré les effets de l'âge ou de la maladie, de par cette réserve cognitive, peuvent résister, compenser plus longtemps. Alors, je vais reprendre... quelques notions, donc du coup je vais passer beaucoup plus vite puisque le professeur Nasri a parlé hein, des facteurs de risque modifiables. Alors j'enseigne toujours à mes étudiants que c'est pas grave si on se répète, puisque on répète les informations de manière différente, dans des contextes un peu différents, on les retient mieux. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la partie de droite, ici, donc qui est augmenter les contacts sociaux et favoriser les activités cognitives. Alors, je pense qu'il y a... Il va falloir éteindre un truc ici. Ça fait interférence. Enfin bon. Alors, donc le schéma suivant a été un petit peu montré aussi par le professeur Nasri. Donc, dans les facteurs modifiables, on a les activités cognitivement stimulantes, les loisirs, la scolarité, les interactions sociales. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces choses-là. Donc, l'exercice physique et le sommeil, ça sera le thème de la conférence suivante, hein, du docteur de la Doucette. Et donc, tout cela peut influencer la réserve cognitive en augmentant la plasticité cérébrale. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut se créer une réserve cognitive à tout âge. Et ces facteurs, même si ces facteurs n'empêchent pas de développer la maladie d'Alzheimer, ils permettent de compenser, hein, plus longtemps les effets de la maladie. Et dans certains cas, comme dans l'étude des nonnes, donc ces personnes-là, les personnes qui avaient des anomalies au niveau cérébral n'avaient pas des troubles cognitifs habituellement observés dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement, hein, des stimulations cognitives, des activités de loisirs, et puis des stimulations, hein, des interactions sociales. Alors, pour vous parler de l'entraînement cognitif, hein, je vais vous donner quelques exemples, hein, de choses que l'on peut faire. J'en avais parlé aussi dans le cadre des interventions non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer, sauf que là, aux patients, on peut leur intervenir, mais en leur apprenant un type de stratégie à la fois. Dans le cadre de la prévention, c'est des personnes âgées saines ou qui s'inquiètent de la santé, de leur mémoire, ou qui ont des troubles cognitifs légers, donc qui sont à risque de développer peut-être une maladie d'Alzheimer. Donc là, on peut leur enseigner différents types de stratégies et leur enseigner dans quel contexte les utiliser. Alors, une qui est souvent utilisée et qui fonctionne bien, c'est inventer des images absurdes, c'est-à-dire utiliser son imaginaire, créer des images mentales, et on va voir de quelle manière. Je vais vous donner quelques exemples qui sont absurdes. Pourquoi absurdes ? Parce que plus c'est absurde ou bizarre, plus c'est facilement distingué et plus on s'en souvient. Alors, l'étape préalable, parce qu'il ne faut pas mettre les personnes en situation d'échec, il faut s'assurer qu'ils sont capables, hein, de créer des images mentales. Donc, on va tester les capacités d'imagerie mentale des personnes. Donc, par exemple, pouvez-vous me dire combien de dents a une fourchette ? Hein, je pose tous les ans à mes étudiants, j'ai des réponses souvent amusantes. Alors, vérification, voilà. Je ne parle pas des fourchettes à huîtres, hein, si on a trois, mais la fourchette classique a quatre dents. Alors, ensuite, où sont les plus grosses roues d'un tracteur, à l'avant ou à l'arrière ? Ah, là, c'est unanime. Mes étudiants se trompent souvent, d'ailleurs. Alors, une fois qu'on a vérifié que les capacités d'imagerie mentale sont bonnes, hein, sont présentes, on peut entraîner, hein, des personnes à exercer la mémoire visuelle pour repérer les détails, l'orientation d'une image, les couleurs, etc., toutes sortes de détails, pour en s'entraîner à faire attention aux détails visuels. Donc là, vous avez vu cette image pendant quelques temps. Alors, pouvez-vous me dire, par exemple, combien de vêtements étaient suspendus ? 5, d'accord ? Combien d'étagères y avait-il ? Est-ce que la porte était plutôt à droite ou à gauche ? Voilà, ah, vous êtes parfait là. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire entraîner l'imagerie absurde. Alors, bon, il y a des collègues qui utilisent des dessins. Moi, j'avais trouvé chez Magritte une grande source d'inspiration parce qu'il y a des tableaux qui représentent vraiment des associations absurdes, comme là, bougie-serpent. Donc là, on le montre aux personnes âgées pour leur expliquer comment il faut faire. sachant que quand après ils vont les générer eux-mêmes, parce que quand on les génère soi-même, on s'en souvient mieux. Alors, autre méthode, hein, ce que tout le monde sait qu'à partir de 50 ans, on a du mal à retenir des noms de personnes. On voit quelqu'un dans la rue ou à un autre endroit, mais mince, comment il s'appelle celui-là? Ou un acteur plus ou moins connu. Donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode visage-nom, qui date d'un certain temps, mais qui fonctionne bien, qui se déroule en trois étapes. Hein, d'abord, on va. Vous avez ici Monsieur Falise. Donc, il faut d'abord trouver un remplacement concret au nom qui doit être mémorisé. Donc, valise, ça vous fait penser à quoi concrètement? Voilà, valise. D'accord. Ensuite, il faut repérer une caractéristique du visage. La moustache. On dirait que vous avez déjà vu ça. Non, c'est très, très fort. Ensuite, donc, la moustache. Voilà. Et ensuite, il faut relier en une image mentale, donc absurde, le remplaçant du nom, et puis la caractéristique du visage, donc valise avec la moustache. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme image un peu absurde? Bon, alors, je vais vous aider un petit peu. Voilà, hein, on peut imaginer une valise, et la poignée, c'est une moustache. Alors, dans les exemples, hein, c'est toujours plus facile, évidemment, hein, quand on s'entraîne. Alors, je vous dirais, je vous mets une petite parenthèse. Hein, pendant plusieurs années, j'ai organisé comme ça des stages de stratégie de mémorisation ici en Guyane avec le CASEDF et puis le CERPAG. Et on pratiquait ce genre d'exercice et ça fonctionne très bien pour retenir des noms de personnes. Donc ensuite, une fois qu'on a créé cette image absurde, quand on montre le visage de la personne, bah, il va revoir dans sa tête l'image de la valise avec la moustache qui sert de poignée, retrouver le nom concret valise et comme ça retrouver le nom Monsieur Falise. Alors, autre méthode qui marche très bien, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, si vous avez entendu parler, en plus en haut on ne voit pas très bien, donc c'est la méthode des lieux. Alors, c'est une méthode très ancienne, hein, qui a été décrite par Cicéron à propos d'un poète grec, hein, qui s'appelait Simonide de Céos, en fait, qui se trouvait dans un banquet. Alors, selon les versions, il y a eu un éboulement, dans d'autres versions, il y a eu le feu, enfin bref, tout le monde est mort, sauf lui. Et il a pu retrouver le nom de tous les convives, parce qu'il avait fait spontanément des associations entre la localisation, là où la personne était assise, et son visage. Et comme ça, on a pu identifier toutes les personnes qui étaient présentes. On a l'exemple d'un journaliste russe que son patron a emmené voir un neurologue, un neuropsychologue célèbre à Moscou, parce qu'il retenait tout. Il pouvait lui raconter pendant 10 minutes ce qu'il avait dit pendant 10 minutes. Et il lui a fait apprendre des listes de mots comme ça, et il lui demandait de rappeler ces listes de mots. Et puis il se rappelait de tout. Et à un moment, il lui a demandé, mais comment vous faites? Il m'a dit, c'est très simple, je parcours mentalement une rue de Moscou, sur la première maison, je mets un mot, sur le portail de maison, je mets l'autre mot, sur un arbre, je mets un autre mot. Il suffit que vous me disiez quel jour et à quelle heure vous m'avez enseigné cette liste et je retrouve les mots. Donc ça a fonctionné. Donc lui, c'était un hypermnésique, hein, mais ça veut dire que cette technique-là, il n'avait pas développé, il l'utilisait comme ça spontanément. Et quand on l'utilise, vous voyez, il faut faire un... Non, zut. Voilà. On fait représenter, ici c'est en 3D, mais le plan d'une maison ou d'un appartement, et on identifie des meubles ou des meubles caractéristiques, et ensuite on demande à la personne d'établir un trajet, hein, ce qui est fait habituellement chez elle, et puis de s'arrêter, de numéroter les meubles importants. Et ensuite, on va associer des objets, hein, des noms d'objets, à chaque meuble. Et ensuite, donc la personne, et si on utilise l'imagerie absurde, puisqu'on peut combiner plusieurs techniques, la personne va se souvenir des mots à retenir. Et ça, on a prouvé que ça fonctionnait très bien, parce que des études d'imagerie cérébrale ont montré que les personnes qui réussissaient à le faire développaient des connexions supplémentaires dans le cerveau, dans les régions associé à l'imagerie mentale. Alors, autre technique, alors ça, je l'ai utilisé aussi en Guyana, méthode des lieux, et les personnes qui l'ont fait aussi avaient appris à s'en servir. Alors, autre méthode, là, que j'expérimente depuis 2-3 ans à l'université, mais qui est très connue dans le cadre de la pédagogie chez les enfants, les étudiants et les adultes, c'est ce qu'on appelle les cartes heuristiques ou mind mapping. Donc là, on ne fait pas une représentation linéaire des informations à retenir, hein, comme des listes, etc., mais on utilise une représentation visuelle et spatiale, avec un concept central. Donc ici, c'est illustré mind mapping. Et puis, on fait des arborescences. Donc, pour retenir des listes de courses, par exemple, qu'on va regrouper par catégorie, pour mémoriser des textes ou des discours, ou pour organiser des événements, des voyages, etc. Donc, on peut utiliser le mind mapping. Les résultats qu'on a avec des personnes âgées sans troubles cognitifs et même avec des patients Alzheimer montrent que ça les aide à mémoriser, qu'il y a des transferts ensuite sur les fonctions exécutives, la planification et sur la mémoire. Voilà, une autre représentation. Qu'est-ce que le mind mapping? Voilà, technique de visualisation d'ensemble. Attention, c'est tout ce que ça fait travailler, la compréhension, la mémorisation, l'organisation des idées. Et donc, on peut utiliser des images, des dessins, des couleurs. Il y a aussi des logiciels. Maintenant, on peut le faire sur ordinateur. Nous, avec les personnes âgées, on les fait dessiner sur des feuilles. Et ça, on a des résultats tout à fait intéressants. Alors, autre manière d'entraîner des fonctions cognitives, là, les fonctions exécutives, tout ce qui est planifié, anticipé, organisé, hein, parce que ça fait partie des fonctions qui peuvent décliner avec l'âge. Donc, c'est tout ce qui nous permet de préparer un repas élaboré, hein, c'est-à-dire faire un menu, faire les courses, préparer les plats en fonction des temps de cuisson, préparation, etc. Et ne pas se contenter de mettre une pizza dans le four. Donc, ça demande de la planification. Tout ce qui est conduire en ville, alors, conduire dans les embouteillages à Cayenne et pas dans la campagne, hein, ça demande de la planification. Jardiner, bricoler, gérer son budget, là vous devez savoir parce que c'est la saison des impôts, donc il faut savoir gérer son budget. Et on peut faire de la prévention aussi en utilisant des stratégies, en enseignant des stratégies d'organisation, en utilisant le mind mapping, parce qu'on sait que ça fait travailler aussi les capacités d'organisation, hein, de manière visuelle et spatiale, et aussi les jardins thérapeutiques, dont M. Victorin vous parlera sans doute tout à l'heure. Alors, je vais vous parler maintenant des interventions à médiation artistique. Hein, donc, il y a déjà la musique qui est le cerveau. Hein, tout le monde aime la musique. Hein, quel que soit le type de musique, tout le monde éprouve du plaisir en écoutant de la musique. Donc la musique a la capacité d'augmenter la plasticité du cerveau, donc ça a été prouvé par de nombreuses études, et provoque des modifications au niveau des connexions synaptiques. Alors les études nombreuses ont montré que, évidemment, si on pratique un instrument ou si on chante, hein, ça va être plus efficace que si on écoute de la musique. Mais écouter de la musique, c'est bien aussi. Et c'est déjà, ça procure du plaisir. Là, ce que l'on voit, c'est que, contrairement au langage, la musique sollicite de nombreuses régions cérébrales, hein, pour traiter des rythmes, des sons, des timbres, etc., aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et là, une petite illustration de ce que peut procurer la musique. Donc, la musique peut... influencer, hein, la perception de l'effort. Hein, tous ceux qui courent, qui font du jogging avec des écouteurs et qui écoutent de la musique en même temps, par exemple. Ça améliore le sommeil et la relaxation. Donc la musique d'ambiance peut aider à la créativité. Donc ça augmente l'état de bien-être et les émotions positives. Et puis permet de libérer de la dopamine dans le cerveau. Donc tout le monde sait que la musique a des effets bénéfiques. Donc même si vous ne jouez pas d'un instrument de musique ou si vous ne chantez pas, mais je suis sûre que la plupart des Guyanais chantent, hein, que ce soit dans des fêtes, au carnaval ou à l'église. Et là, je vais, si ça marche, voilà. Alors regardez, ça c'est quand on écoute du tango, vous voyez comment le cerveau s'active donc en écoutant la musique. Voilà, donc je vais passer à la suivante. Donc ça, c'est toutes les activations du cerveau quand on écoute de la musique. Donc ici, c'était du tango. Donc imaginez qu'en plus d'écouter de la musique, vous dansez. Hein, donc on connaît aussi les bienfaits des ateliers de danse. Hein, la danse nécessite d'apprendre des séquences de pas. Hein, c'est ce que les chorégraphes appellent des cellules chorégraphiques. Et des mouvements donc dans l'espace, donc utiliser l'espace, la coordination en même temps qu'on entend la musique. Donc ça exige un engagement physique et cognitif important. Donc ça améliore physiquement, ça améliore le tonus musculaire, la force, l'équilibre, la coordination. Et beaucoup d'études ont montré aussi que ça, même chez les personnes âgées, que ça améliore la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives et le traitement visio-spatial. Et chez les patients, alors il y a des ateliers qui se sont développés, notamment avec le tango, avec des patients Alzheimer et des patients atteints de la maladie de Parkinson, donc qui ont des troubles de l'équilibre, qui marchent à petits pas. Donc ça permet, ces études ont montré chez les patients parkinsoniens que ça permettait d'améliorer l'équilibre et d'augmenter l'amplitude des pas hein, quand on fait ces ateliers de tango. Alors, ça nous amène à la notion de cognition incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la perception, l'action et la cognition sont interconnectées. Pendant longtemps, les psychologues cognitifs s'intéressaient aux fonctions cognitives du cerveau sans s'intéresser au reste. Après, on s'est intéressé aux émotions et aux liens entre cerveau et émotions. Et maintenant, on s'intéresse à la cognition incarnée, c'est-à-dire tout ce qui est... les expériences physiques et la manière dont elles influencent la cognition. Parce que le corps fait partie intégrante de la cognition. On pense et on ressent les choses en fonction de ce qui se passe dans nos systèmes sensoriels et moteurs. Et de plus, avec la danse, ça crée du lien social. Les premiers ateliers de tango pour personnes âgées, c'était en Argentine, forcément. Et ça s'adressait à des personnes âgées isolées pour rompre l'isolement et leur donner du plaisir. Et ça permet de faire des créations collectives. Ça procure du bien-être physique et psychologique. Ça améliore la qualité de vie. Donc, que l'on fasse ça dans le cadre d'ateliers organisés, dans le cadre de la prévention, ou qu'on s'inscrive à des cours de danse, ou qu'on danse par plaisir. On est à 3 mois du carnaval, donc je pense que beaucoup d'entre vous ont dansé. Ça recommence dans 8 mois. Donc, et puis avant, il faut s'entraîner. Donc, je pense qu'au niveau chant et au niveau danse, en Guyane, on est dans la prévention. Alors, maintenant, je vais vous parler du théâtre. Ça, c'est aussi des projets que j'ai menés. Bon, il y a beaucoup d'activités, d'ateliers théâtre qui se font aussi en métropole et partout. Nous, ce qu'on avait fait, c'était l'évaluation avant et après des bienfaits sur les fonctions cognitives, sur le bien-être, sur l'humeur, etc., et sur l'apathie. Et on avait trouvé des effets très bénéfiques sur ces ateliers de théâtre. Donc, dans le sens où ce n'est pas de la dramathérapie, mais on faisait un travail d'apprentissage de techniques de jeu théâtral avec des groupes... constitué de personnes âgées et de patients Alzheimer, et on a pu montrer des effets bénéfiques chez les patients et chez les personnes âgées sans troubles cognitifs en comparant avant et après. Et là aussi, on peut parler de cognition incarnée, puisque les acteurs s'appuient sur les mouvements du corps, il faut s'approprier l'espace, il faut se déplacer, il faut se tourner vers le public et pas lui tourner le dos, il faut investir l'espace de la scène. Et puis, voilà, on communique via les émotions, les expressions faciales, via les émotions qu'on fait ressurgir, etc. Donc, et comprendre la cognition à travers une perspective corporelle permet d'expliquer pourquoi le théâtre peut être un moyen puissant de communication, d'apprentissage et même d'intervention thérapeutique. Et donc, chez les patients Alzheimer, on a pu montrer donc, les effets bénéfiques. Alors, pour la peinture, je vais passer très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers de peinture. Donc là, j'en profite pour montrer un petit peu ce que John Yafo avait fait avec des patients Alzheimer dans le cadre de ses ateliers, avec une exposition. Donc, on a le plaisir. Les ateliers peinture ont montré que ça diminuait l'anhédonie physique. L'anhédonie physique, c'est l'incapacité à ressentir du plaisir physique. Et donc, les patients et les personnes âgées sans trouble cognitif s'étaient améliorés avec ça. Et puis, il y a le plaisir de faire une exposition, de le montrer, de se faire complimenter. Alors, j'en profite au passage pour remercier les artistes de Guyane qui ont travaillé, qui ont accepté de travailler avec moi et d'accepter ce challenge de travailler avec des patients Alzheimer. Donc, Patrick Moreau, metteur en scène, Patrick Moreau, Serge Abatucci. Au niveau de la danse, Gladys Demba, Anne Meyer et Muriel Merlin à Saint-Laurent. Le chant, Régine La Passion, que vous devez connaître, je pense. Elincia Piver. Et pour la peinture, donc John Liafo, ici à Cayenne. Et Francky Amété, donc peintre d'art imbé à Saint-Laurent. Voilà, donc je les remercie parce qu'on a fait des travaux grâce à eux. Ils ont fait faire aux personnes âgées des choses formidables. Alors, un petit mot sur les nouvelles technologies. J'ai bientôt fini. Donc, je vais parler un petit peu de la réalité virtuelle, hein, comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour le diagnostic et les interventions pour des personnes âgées. Et aussi un peu pour les patients Alzheimer, mais ce soit un petit peu plus compliqué avec les patients Alzheimer, mais c'est faisable en faisant attention à qu'il n'y ait pas de malaise, un peu de vertige. Et donc ces technologies, ça permet d'être immergé hein, dans des univers particuliers, donc on peut l'utiliser de différentes façons pour explorer des problèmes de mémoire. On crée des, comme ici c'est une ville virtuel qui est créé, on peut placer des objets, des personnes, etc. Puis on voit comment c'est mémorisé, comment les personnes se déplacent dans cet univers comme ça, virtuel. Et ça permet de prendre en charge de manière précoce les personnes susceptibles d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Donc les personnes qui présentent un trouble cognitif léger, qui ont une plainte amnésique, peuvent bénéficier de ce type d'intervention parce qu'elles peuvent facilement acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, toutes ces technologies hein, permettent aussi de contribuer à la prévention. Et là, j'ai lu avant-hier un article, une méta-analyse, c'est-à-dire une grosse analyse faite par des chercheurs qui ont analysé plein d'articles sur un même sujet. Et ils ont collecté des articles sur les technologies numériques chez des personnes qui ont 70 ans, qui ont eu le temps pendant des années d'utiliser des technologies numériques et sur une population donc, de 400 000 personnes. Et donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'hypothèse était que ça va faire décliner les fonctions cognitives s'ils sont trop immergés dans l'utilisation de technologies numériques. Et en fait, non. Hein, selon, évidemment, si c'est juste regarder des vidéos, ce n'est pas pareil, mais interagir avec l'ordinateur, ça, apparemment, ça peut freiner un petit peu le déclin cognitif. Et pour terminer, je vais parler des activités de loisirs. Je vais donner juste quelques exemples, hein, parce que les activités de loisirs, ça ne se limite pas à des jeux de société. Hein, ça peut aller voir, faire aller voir à des expositions, sortir, lire, enfin plein, toutes ces activités de loisirs qui contribuent au maintien hein, de réserves cognitives. Alors, je n'ai pas choisi ces jeux-là au hasard, d'ailleurs, hein, parce que je sais que les Guyanais adorent jouer aux dominos, en tapant très fort sur la table, hein, quand on pose les dominos. Ça, c'est un jeu guyanais qui vient de sortir, hein, qui s'appelle Belle Côté, la Guyane Belle Côté. C'est un peu mixte de jeux de loi et de Trivial Poursuite. Les jeux de cartes, le Scrabble, etc. Donc, les jeux de société ont plusieurs avantages. Hein. C'est une source d'activité sociale et mentale stimulante. Ça contribue à la flexibilité mentale, à stimuler la mémoire, à exercer la résolution de problèmes, hein, par exemple les jeux de stratégie comme les jeux d'échecs ou autres, et puis rompre l'isolement, hein, en jouant en famille, avec les amis, avec les petits-enfants, donc faciliter, encourager les relations intergénérationnelles. Juste une petite parenthèse pour finir sur le jeu de Go, parce que j'ai pu rencontrer des Japonais qui ont fait des études sur l'utilisation du jeu de Go, qui est un jeu de stratégie qui est plus large que le jeu d'échecs, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, mais on peut faire sur un damier plus petit, hein, donc pour que ce ne soit pas trop compliqué. Donc c'est un jeu qui se joue à deux, et donc les joueurs posent des pierres noires ou blanches sur des intersections de lignes. Le but, c'est d'encercler les pièces adverses et de contrôler l'espace le plus grand sur le plateau sans déplacer les pièces de son adversaire. Donc les règles sont différentes du jeu d'échecs. Donc c'est un jeu qui fait appel à de nombreuses fonctions cognitives, notamment l'apprentissage, les stratégies et la maîtrise de soi, la gestion de l'espace. Voilà, et donc il y a beaucoup d'autres activités de loisirs, mais comme le temps est limité, je me suis limitée à ces activités-là. Et pour finir, juste quelques secondes, si ça marche. Voilà, c'était l'avant-dernier spectacle qu'on a joué à Macoria. Et ça, c'est la fin. Avec les Gangans de Macouria. Et ça s'appelait I Will Survive. Je vous remercie de votre attention.